Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Plusieurs signaux d'actualité qui confirment cette inflation, satanée inflation. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait cohérent. Le SMIC va à nouveau augmenter au mois d'août. Pour un temps plein à 35 heures, on passera de 1302 euros net à 1328 euros net pour une personne seule avec la prime d'activité. Ça fait pratiquement 1580 euros par mois. Également signe des temps avec cette inflation, le livret A pourrait voir son taux doubler à 2%. C'est ce qu'a laissé entendre hier le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Et donc on va commencer avec l'information du jour. Ce sont les chiffres de la Commission européenne qui sont dévoilés en exclusivité par Bloomberg. Ah oui, l'inflation est bel et bien là et elle s'annonce beaucoup plus forte que prévu en 2023 et la croissance est de moins en moins là puisqu'elle était espérée à 2,3% en zone euro pour l'année 2023. C'est une anticipation qui date du mois de mai et aujourd'hui la Commission européenne va réviser à la baisse sa perspective de croissance 2023 pour la zone euro de 2,3% à 1,4%. Que peut faire la BCE? Peut-elle encore reculer devant l'obstacle? Quelle est la bonne solution? Est-elle monétaire? Est-elle budgétaire? Comment on arbitre entre la préservation de la croissance et la lutte contre l'inflation? Et puis l'inflation toujours aux États-Unis, 9,1% en rythme annuel, c'est au mois de juin. Mais l'inflation sous-jacente est à un niveau jamais vu, à 6% quand on retire tous les éléments volatiles qui sont notamment l'énergie et les prix alimentaires. Enfin, on verra ce que l'on peut retenir de la déclaration finale des rencontres d'Aix-en-Provence qui tournait autour de la notion d'état d'urgence économique. Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Membre du Cercle des économistes, justement. Et vous étiez à Aix, bien sûr, professeur au Collège de France. Vous avez et à l'INSEAD. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Professeur à la Schema Business School. Et vous êtes l'auteur notamment des chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Challenge. Et bien sûr, à la une du numéro spécial d'été, la 27e édition Fortune de France, le classement 2022 des 500. Qu'est-ce que, si vous aviez un ou deux ou trois items à retenir sur cette livraison?
Un chiffre qui claque bien, c'est 1000 milliards. C'est la première fois.
Oui, j'ai vu que des gens scandalisés.
Première fois, effectivement, qu'on franchit ce seuil.
Pour les 500, donc.
Pour les 500. Hein, donc, c'est une fortune professionnelle. Hein,
bien sûr.
On est bien d'accord, c'est. S'ils vendaient tout aujourd'hui, hein, ils n'ont pas 1000 milliards dans leur besace, mais quand même, ça frappe beaucoup. Un deuxième chiffre, c'est 200 millions, c'est ce qu'on appelle, nous, le FMIC, fortune minimale d'insertion au classement, donc il faut 200 millions d'euros maintenant pour rentrer dans ce club un peu particulier. Et allez, un troisième chiffre pour la route, c'est 30 milliards, c'est l'enrichissement d'une famille, la famille Saadé, donc CMA CGM, en un an, du fait de la flambée, on va y revenir, de certains prix, et notamment du fret maritime, qui est sans doute le nerf de la mondialisation et qui s'est envolé encore beaucoup plus que le pétrole.
Rodolphe Saadé, un cinquième fortune du classement.
Voilà, du coup, il rentre dans le top 5. Ouais. Il gagne une quinzaine de places.
Ah, quinzaine de places.
Et je rappelle que c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment dans une activité très cyclique puisque cette entreprise était en procédure de sauvegarde ou équivalent il y a 2 ans. Et il y a eu un très gros PGE qui a été accordé l'an dernier. Je rappelle que tout s'était arrêté. Et donc, voilà. Donc là, peu plus que le rembourser, c'est sûr. Donc, on est cul par-dessus tête, quoi.
Pour souligner à propos de CMA-CGM que les extraordinaires... Mais justement, on va commencer, tiens, l'histoire de taxer...
Plus gros profit ever en France.
Hein. Mais c'est ce qui a considérablement amélioré la balance des paiements courants de la France. Notamment les résultats extraordinaires réalisés donc, par ces entreprises qui vendent du service en dehors de nos frontières. Et donc là, c'est pas de la balance commerciale, mais ça rentre dans la balance des paiements courants, qui est quand même beaucoup plus révélatrice
des fondamentaux. Balance des revenus qui est extérieure, qui est largement excédentaire grâce notamment aux multinationales.
Ouais. 9 milliards d'excédents.
Pose des questions sur aussi les délocalisations, etc. Enfin, là, on ouvre...
C'est principalement les services financiers, en fait. Si on l'a posé, cette question, Philippe Aguillon et Emmanuel Combes et Pierre-Henri de Menton, sur
taxation exceptionnelle.
Voilà, l'Espagne y va.
Je serais d'accord si c'était coordonné. C'est-à-dire que moi, il faudrait Philippe que ce Aguillon. Soit une fois, voilà, et one time, comme on dit en anglais, mais qui soit coordonné entre pays européens, en tout cas entre quelques pays européens. Si c'était le cas, si on arrive à ça, je suis totalement favorable. Bon. Donc one time, coordonné entre pays européens. Ça, je serais pour, mais à cette condition-là.
Et pareil, Emmanuel Combes. Ouais,
même chose, parce qu'on le sait bien, en théorie économique... Quand vous faites une chose une fois, le marché anticipe que si vous l'avez fait une fois, vous le referez peut-être deux fois. Et donc, vous perdez ce que vous avez gagné à court terme, vous le perdez en crédibilité, en réputation. Donc, c'est super important de bien expliquer que cette situation exceptionnelle, taxe exceptionnelle, et en effet, comme le dit Philippe, coordination en Europe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein.
Alors, on en parlait hier et on se disait, on pourrait l'exemple de Total Energy, par exemple. Ils sont déficitaires sur le territoire français.
Plus un problème après de bassin. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme périmètre?
Je ne sais pas, Pierre-Henri, là-dessus, vous avez un avis
Oui, moi, je vais juste revenir sur CMA-CGM. Je pense qu'il y a des autorités de régulation aussi qui existent et qu'il y a certaines rentes qui sont encore là. Et on parlait de la logistique et du transport maritime de containers. Il se trouve qu'il n'y a pas d'Américains là-dedans. Il y a trois Européens. C'est un oligopole où il y a trois Européens et un Chinois. Et nos amis de la Commission européenne s'excitent beaucoup sur les GAFA. Là, c'est silence radio. En plus, ils ont passé des accords entre eux. Alors, il y a une administration qui est en train de commencer à s'exciter, c'est l'administration américaine. Et je pense qu'il y a différents secteurs comme ça, où il y a quand même encore des rentes. Alors, c'est plus du tout à la mode, puisqu'on a suffisamment accusé la Commission européenne d'être ultralibérale et que maintenant on est souverainiste, mais il y a quand même quelquefois dans la constitution des profits des questions à se poser.
C'est clair que là ce sont des profits qui viennent d'une inflation de prix que ne maîtrise pas l'entreprise, comme pour le pétrole. Emmanuel Combes.
Ce que dit Pierre-Henri est capital, hein. Que chacun augmente ses prix pour répercuter ses coûts, ça s'appelle la logique du marché. Par contre, quand vous vous coordonnez entre vous de manière secrète, je dis pas que c'est le cas de CGA-CGM, hein, mais il n'est pas exclu que dans certains secteurs, et on l'a dit à l'autorité de la concurrence, hein, Benoît l'a rappelé, hein, il n'est pas exclu
Benoît Coeuré, hein.
On puisse avoir en réalité des hausses de prix coordonnées, ça s'appelle une entente, et pour le coup, si c'est
détecté... Voilà, on va dire la période est propice à ça. Oui. Ce moment de l'inflation, où on répercute, le consommateur peut comprendre, mais il faut quand même regarder de façon très très vigilante l'évolution des marges.
Les études empiriques montrent qu'en général, les cartels, hein, les ententes sur les prix, c'est plutôt en période de sortie de crise, et notamment en période d'inflation. Puisqu'en période d'inflation, spontanément, moi j'ai intérêt à ne pas augmenter mes prix et laisser les autres les augmenter pour lui prendre ses clients. Et donc on comprend tout l'intérêt d'une concertation qui est de dire, hein, on s'entend en réalité sur la hausse tarifaire qu'on va répercuter aux clients.
L'inflation, la croissance, les perspectives de l'Europe, et je vous fais réagir, l'inflation 7,6% cette année. En mai, c'était 6,1% attendu. Ça fait une différence quand même. Hausse de l'inflation l'an prochain, d'après la Commission européenne, selon les informations de Bloomberg, 4%. L'anticipation du mois de mai, c'était plus 2,7%. La croissance, bon, pour cette année, ça résiste en zone euro, mais de 1,4% en 2023. La précédente estimation du mois de mai, hein, d'hier, c'était 2,3% de croissance. Et en février, pour la croissance de cette année, eh bien, la Commission espérait 4%. Et maintenant, elle attend au mieux 2,6%. qu'est-ce qu'on fait contre l'inflation?
Je pense que là, ça montre la chose suivante. Il y a plusieurs instruments de lutte contre l'inflation qui, à mon avis, sont complémentaires. Il y a la partie monétaire, donc hausse de taux d'intérêt. Enfin, évidemment que les taux d'intérêt vont devoir monter. Et il va y avoir, évidemment, on met fin au quantity easing et aux achats d'actifs par les banques centrales et les taux d'intérêt vont augmenter. Ça, certainement, ça fait partie de la chose. Mais je pense qu'il y a une partie budgétaire. La partie budgétaire, c'est de dire, eh bien, il faut que les États fassent beaucoup plus attention à comment ils dépensent leur argent. Essayer de faire des dépenses, des compensations ciblées, parce qu'évidemment, il y a des catégories d'autant plus, beaucoup plus vulnérables que d'autres, et donc il faut les cibler pour les protéger.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Mais on peut pas
faire.
Donner à tout le monde. Par exemple, les 18 centimes, ça, c'est pas le truc qu'il faut faire parce que c'est tout
ça
le monde.
Ça décline à compter d'octobre.
Voilà. Bon. Voilà. Bon. C'est une bonne chose parce qu'il faut cibler davantage. Il faut réduire les dépenses récurrentes, faire la réforme de l'État. Ça, c'est important. Donc, il y a des restrictions budgétaires. Et en fait, aux États-Unis, il y a maintenant, on commence à faire des restrictions budgétaires. Aux États-Unis, et nous, on va devoir faire attention.
Le déficit budgétaire américain, il a baissé énormément,
voilà.
Là.
Exactement. Vraiment, ouais. Donc, il faut faire ça, mais en même temps, il faut investir du côté de l'offre, parce que l'inflation, elle a en partie pour cause des goulets d'étranglement, c'est-à-dire le fait que l'offre ne rattrape pas la demande. Et y a des blocages dans certains pays, on a des chaînes d'approvisionnement, et à certains maillons de la chaîne, l'offre ne suit pas la demande. Et puis, il y a la transition énergétique, c'est-à-dire qui est une grosse source d'augmentation des prix, et donc il faut là une politique de l'offre. Et c'est une politique, c'est une politique industrielle qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir une politique industrielle intelligente. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que on en parlait avec Emmanuel tout à l'heure. C'est-à-dire que la lutte contre l'inflation, ça va être plusieurs outils. Ça va être évidemment les outils traditionnels. Ça va être des restrictions budgétaires, mais au sens de dire il faut cibler les aides aux ménages. Et puis c'est une politique budgétaire, mais où on réduit les dépenses récurrentes et on va vers du côté de l'offre. On fait une vraie politique d'investissement dans la croissance et dans la transition énergétique. Voilà pour justement, éliminer ces goulets d'étranglement. Et c'est ce mélange-là qui est la nouveauté, vous voyez, et c'est ça.
Emmanuel Combes,
Philippe est vraiment capital, parce qu'on parle toujours de politique monétaire, de politique budgétaire, mais la politique monétaire, à mon sens, elle a pour rôle essentiel de lutter contre l'inflation de nature conjoncturelle. Là, on est sur une inflation, à mon sens, et je le dis depuis 2 ans, qui est structurelle. Je pense qu'on va vers un monde de 3%, 4% d'inflation. Alors certes, la politique monétaire peut contribuer à ancrer les anticipations d'inflation, mais vous ne luttez pas contre une inflation à 4% par la politique monétaire. Vous luttez, en effet, paradoxalement, par une politique de la concurrence. Je prêche un peu pour ma paroisse.
C'était l'élément que n'avait pas cité Philippe.
Et secondement, par une politique industrielle. C'est paradoxal de dire, en fait, on lutte contre l'inflation. Pourquoi ? Parce que la cause principale de l'inflation, je l'ai dit déjà il y a 2 ans, c'est une inflation qui est liée au climat. On connaît les 3 grandes causes de hausse des prix pour le climat. D'abord, comme il y a un réchauffement climatique, il y a des événements extrêmes de plus en plus nombreux. Ça coûte cher en police d'assurance. Et puis même en productivité, quand il y a une mauvaise récolte. Donc c'est une inflation, on dirait, liée au réchauffement climatique. Il y a l'inflation qu'on appelle l'inflation fossile, la fossilflation, pour parler comme Isabelle Schnabel. C'est que le prix de l'énergie fossile va augmenter. Qu'on fait les quotas de carbone à 80 euros la tonne contre 20 euros il y a 4 ans. Et puis troisièmement, les produits propres, ça coûte super cher. Ça coûte super cher parce qu'on n'a pas encore d'économie d'échelle, on n'a pas encore d'économie d'expérience. La voiture électrique, ça coûte cher. Donc mécaniquement, vous en prenez pour 10 ans, 20 ans. Donc l'enjeu, c'est comment faire en sorte que cette période d'inflation soit pas trop longue. C'est de la politique industrielle. Mais c'est intéressant, on luttera contre l'inflation par de la politique industrielle, par des investissements verts.
Ce qui est frappant, c'est que vous êtes tous les deux en contradiction parfaite avec François Villeroy de Galhau. Le jour des rencontres d'Aix, le premier jour, c'était donc le vendredi 8 ou juillet, je lis l'interview de François Villeroy de Galhau, je crois que c'était dans Les Échos, ou Le Figaro, je ne sais plus. Et il dit, la solution contre l'inflation ne sera pas budgétaire. Il est ferme et définitif. Donc les experts ne sont pas du même avis.
Ces derniers mois, elle a été que budgétaire.
C'est
un peu curieux. Pour les banquiers centraux, c'est quand même un camouflet énorme. Vous parlez rencontre d'Aix. Moi, j'étais extrêmement, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais moi, j'étais extrêmement frappé du discours de Christine Lagarde où elle nous a parlé climat et crypto-monnaie. Alors que l'inflation est en train de ravager la planète. Donc, c'est un peu bizarre. Ils sont partis sur des objectifs très variés, nos amis banquiers centraux, dont maintenant la gestion des spreads en Europe.
Ça va être un sujet, là. Avec les chiffres que je viens de vous donner, ça va être un sujet.
C'est un sujet, mais le core business d'une banque centrale Et c'était quand même le début de l'intervention de Philippe Aguillon. C'est quand même une politique monétaire pour lutter contre l'inflation, même si elle est uniquement conjoncturelle, qu'il y a une partie structurelle. Juste sur la partie structurelle, il y a quelque chose qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il y a ce que les économistes appellent l'effet de second tour, notamment sur les salaires. Et là, il y a des problèmes structurels et très importants d'adéquation entre l'offre et la demande, et notamment en France. Hein, c'est-à-dire que on a vraiment, on va avoir forcément faute de compétences, etc., une augmentation des salaires. On le voit déjà aux États-Unis, où il y a d'autres phénomènes, comme ce fameux phénomène de la grande démission. On n'a pas en France. Hein. Et en France, on a vraiment un dysfonctionnement du marché de l'emploi qui, à mon avis, va entraîner une hausse des salaires structurels qui va engendrer elle-même de l'inflation. Donc c'est un des problèmes structurels à traiter.
Le taux d'intérêt ne peut pas être le seul instrument. Oui, c'est-à-dire quand tu as des goulets d'étranglement où l'offre ne suit pas la demande, et ou le prix de l'énergie, c'est pas parce que tu vas augmenter les taux d'intérêt que tu vas nous permettre de faire la transition énergétique.
On est d'accord.
Tu comprends? Donc il faut plusieurs instruments. Voilà.
Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. C'est pas avec les taux qu'on va augmenter la quantité de barils disponibles.
Voilà. Quand vous avez deux causes, par définition, il faut deux instruments. La politique monétaire, elle permettra de lutter contre l'inflation conjoncturelle, mais ça sera pas suffisant. Un autre point, à mon avis, le débat n'est pas de savoir faut-il une politique budgétaire pour l'inflation ou contre l'inflation, c'est une politique budgétaire pour quoi faire. Si c'est une politique budgétaire de demande, en clair d'échec, c'est évident que ça va alimenter l'inflation. Par contre, si c'est une politique industrielle, c'est une politique budgétaire. La politique industrielle ne tombe pas du ciel, ça se chiffre en milliards, en dizaines de milliards. Donc, à nouveau, ne jouons pas sur les mots. Ce qu'on entend par politique budgétaire, c'est politique budgétaire tournée vers des investissements green.
Je me demande pourquoi est-ce qu'effectivement la Banque Centrale porte ce discours vert. Je ne sais pas si vraiment elle est dans son rôle. Après, il y a quand même toutes les raisons de penser qu'on rentre dans un cycle de durcissement avec ces chiffres d'inflation et avec l'euro qui baisse par rapport au dollar. Là, même si la Banque Centrale n'a pas officiellement dans ses missions d'objectifs de change,
elle devra augmenter les taux d'intérêt. Voilà. Mais en même temps, c'est bien qu'elle ait cette idée de politique de l'offre. Je trouve que c'est c'est un progrès par rapport à avant.
Pour revenir sur les chiffres là que va sortir la Commission, enfin, d'après Bloomberg, moi ce qui me frappe, ce que vous citiez tout à l'heure, là, ces chiffres tous plus inquiétants les uns que les autres,
c'est qu'il y a un
vrai tournant, c'est-à-dire que quand on écoute le discours, les prévisions du gouvernement, le discours de Bruno Le Maire, on avait tous compris qu'il y avait un cap qui allait être passé, que l'inflation allait se calmer à partir de 2023. Là, on est en train petit à petit de changer de scénario. Donc là, on est, alors on parlait structurel, on rentre dans une espèce de stagflation structurelle. Il faut se préparer. On va revenir sur la déclaration d'Aix, mais il y a une situation d'urgence économique qui est en train de s'installer.
Attention, Bruno Le Maire qui nous disait le pic est atteint lorsqu'il présente les mesures de la loi pouvoir d'achat moins d'une semaine avant ces chiffres de la commission qui vont être confirmés.
Je voudrais revenir sur ce que disait Pierre-Henri en économie. Ce qui est grave, c'est pas d'avoir 4% d'inflation. Hein. Si tous les contrats sont indexés à 4%, c'est le fait qu'on arrive à la stabiliser à 4%. Très honnêtement, qu'on ait 2 ou 4, si tous les contrats sont indexés rapidement, ça change pas grand-chose. L'enjeu, c'est
que les contrats, vous pensez à quoi, les contrats?
Les salaires.
Les salaires, d'accord. Voilà.
Oui. L'inflation est neutre dès lors que tout le monde est rattrapé. Le problème de l'inflation, c'est que plus elle est forte, plus elle est d'abord volatile. Et secondement, moins on est capable de la maîtriser. En clair, quand vous passez à 4, rien ne vous dit que demain vous serez pas à 5, puis à 6. Par l'effet de second tour dont parlait Pierre-Henri. Hein. Mais en tant que tel, avoir 3%, 4%, si c'est stable, donc d'où la question de l'ancrage des anticipations. À mon sens, l'enjeu demain, c'est que la Banque Centrale remonte les taux et dise voilà, le nouveau taux d'inflation de cible, c'est plus 2, c'est peut-être 3, c'est peut-être 4 pour ancrer les anticipations.
J'entends sur les ancrages d'anticipation, mais il y a quand même un moment, il y a l'histoire de la fameuse cote d'alerte. Si votre taux d'intérêt nominal augmente et que le taux de croissance nominal baisse, vous allez arriver au moment où on est à l'équilibre et le moment où c'est dans le mauvais sens. Et là, on passe de taux d'intérêt réel négatif à taux d'intérêt réel positif. L'Agence France Trésor, on arrête de rire. Hein. Très vite, en quelques jours. Hein.
C'est pour ça qu'il faut soutenir la croissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer à la croissance. Il faut tenir les deux bouts. C'est pour ça qu'il faut la politique budgétaire également, parce qu'il faut agir sur la croissance.
Il y a eu une déclaration.
Dans le raisonnement que vous mentionnez tout à l'heure, je crois qu'on ne prenait pas en compte le fait que la croissance est endogène et que donc il faut des mesures qui soutiennent la croissance en même temps qu'on a les mesures de taux d'intérêt à court terme pour stabiliser les anticipations.
Elisabeth Borne disait il y a quelques jours que l'ensemble des promesses de baisse d'impôts de production pour 2023 seraient tenues et que la baisse serait en une fois. Il y a quelques temps, on se demandait si ça allait pas être justement le côté un petit peu salé après le sucré et qu'on n'allait pas lisser dans le temps la baisse d'impôts de production. Avant d'aller sur, de vous faire réagir à quelques...
De toute façon, c'est assez neutre, hein, parce que c'est compensé, hein, les baisses d'impôts de production. C'est-à-dire qu'il y a l'État va payer les collectivités locales qui percevaient ça. Hein. Oui. Donc, du point de vue du déficit budgétaire, je pense qu'il n'y aura pas tellement...
Oui, mais du point de vue des incitations des entreprises... Voilà.
Mais je voulais vous faire réagir à l'une des déclarations de Jamie Dimon. Non, c'est pas très logique dans l'ordre de mes sujets de faire ça. Il vaut mieux que... on va parler d'ex. J'aimerais d'abord vous faire réagir sur deux éléments par rapport au pouvoir d'achat, parce que c'est quand même plus lié à l'inflation. On se rend compte que, avec un peu d'effet retard, parce que c'est techniquement complexe, ça y est, on commence à cibler les gens et qu'on ne va pas cibler les produits. Parce que si je m'amuse à subventionner le baril de pétrole, le Saoudien qui me vend du pétrole, il a tout intérêt à monter les prix, puisque de toute façon, il sait qu'en bout de chaîne, il y a quelqu'un qui est là pour acheter. Donc, est-ce que là, déjà, cibler les individus, pas les produits, c'est la bonne direction ?
Et bien sûr. Ah, bien sûr.
On est tous d'accord.
Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait être sérieux budgétairement. Mais être sérieux budgétairement, c'est de dire, je vais cibler, je donne la priorité au court terme, mais je cible le pouvoir d'achat des plus modestes, quoi.
Mais avec un instrument simple. Le chèque, c'est quand même le truc.
Alors après, un chèque unique de 12 mois. Nous, c'est ça qu'on proposait dans la déclaration finale voilà. Un chèque unique pour les revenus modestes.
Jusqu'à 1,2 SMIC, vous dites, il faut un chèque mensuel versé pendant un an, c'est ça?
Voilà. Maximum.
Et surtout, ne pas rentrer dans cette idée qu'on va faire des prix différenciés. Ils existent de fait, ces prix différenciés. Parce que, pardon, donner un chèque à une personne et pas la donner à l'autre, ça revient à dire que le prix est différencié. Mais ça a au moins le mérite de ne pas le dire. Je pense que c'est catastrophique, l'idée de prix différencié. D'abord, vous envoyez un signal extrêmement anxiogène, d'un point de vue purement de com' politique. Hein, parce qu'à la fin des fins, où s'arrête le ciblage des prix, on pourrait même dire, à la rigueur, nous sommes quatre autour de ce plateau. Vous savez, j'ai écrit là-dessus, sur les prix personnalisés, il y aura quatre prix. C'est super anxiogène. Vous allez créer déjà dans un pays où la confiance est quand même proche de zéro, le sentiment pourquoi moi je paye 5 et pourquoi vous, Nicolas, vous payez 5,20 et pourquoi Pierre-Henri paye 4,80. Donc je trouve que c'est extrêmement anxiogène, puis c'est compliqué. Sur quels critères, sur quelle base?
Peut être un peu dissonant.
Il faut des choses simples.
De toute façon, l'évidence, c'est qu'on va utiliser le chèque énergie. Voilà.
Mais le chèque, c'est de la discrimination, mais au moins, ça cache son nom.
Juste,
d'abord, on a 40 secondes.
Oui, alors juste d'accord sur le fait que faire le arroser le sable, là, comme on le fait avec le même truc pour tout le monde, c'est absurde. Et j'étais extrêmement choqué que le groupe LR, qui devrait être le plus réaliste, la droite classique, propose le carburant à 50 pour tout le monde, capé avec un prix fixe. Alors on a 10 centimes d'écart avec Mélenchon, mais c'est quand même hallucinant.
Mélenchon, il est à 40.
La démagogie, et c'est grave.
Mais ça décrédibilise Pécresse qui disait on crame la caisse. Voilà.
Ça décrédibilise beaucoup. Après, sur la différenciation, le problème, c'est que même si elles sont simples, c'est des petites usines à gaz avec des effets de seuil, etc. Et il y a une réforme qui avait été annoncée par le président de la République, on ne sait pas, hein, parce que beaucoup de réformes sont remises, il faut simplifier, vous savez, c'est la solidarité à la source, le RSA activité, toutes ces réformes-là doivent arriver d'urgence, parce qu'on ne peut pas continuer à ajouter comme ça des petits sparadraps. Je dirais, il faut être professeur au Collège de France pour comprendre quand on est dans un revenu modeste, l'ensemble de trucs auxquels on a droit, de chèques, et il y a une petite ristourne vous avez sans doute vu, une ristourne peut-être de 25 euros sur le péage. Alors ça, il faut aller sur le site, etc. C'est démentiel. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Alors c'est sans doute pas le revenu universel, il faut lui donner un autre nom.
Mais il devait exister.
Il y a un vrai travail, ça doit exister. Les travaux ont été faits et c'est sur la table.
On marque une pause. Effectivement, celui qui paye par chèque vacances peut avoir 10% de ristourne au péage. Le revenu universel d'activité était prévu, on n'en a plus jamais entendu parler. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes, également enseignant à l'INSEAD, co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Emmanuel Combes, professeur à la Schema Business School et qui a publié notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Et puis Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, la 27e édition des Fortunes de France, le classement 2022 des 500. C'est la une traditionnelle du numéro d'été de challenge. On se faisait une réflexion un peu cynique pendant la pub. Si on fait des prix différenciés, on enverra les gens qui sont éligibles au bas prix pour faire nos courses à notre place.
Oui, un arbitrage, ce qu'on appelle de l'arbitrage.
Vous imaginez le truc.
Et vous avez même un second effet économique, c'est que lorsque vous faites, ça s'appelle de la discrimination par les prix, vous élargissez la taille du marché, et donc paradoxalement, vous allez augmenter la consommation.
J'aimerais vous faire réagir juste à cette phrase avant de revenir sur les conclusions d'Aix. C'est très mal perçu de dire du bien d'Emmanuel Macron. Généralement, il vaut mieux avoir un... Enfin, l'avis est souvent assez négatif. Et là, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, nous dit hier dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron est un président très compétent. Un travail d'attractivité extraordinaire a été accompli depuis son élection en 2017. JP Morgan qui a passé de 290 à 900 personnes, ses effectifs, sur le sol français. Notamment d'ailleurs en raison du Brexit, c'est vrai. Quand on a le droit de dire ça.
Bah écoutez, moi, c'est indéniable que les réformes fiscales du début du premier quinquennat Macron et les lois travail ont certainement contribué à la création des 1 200 000 emplois. C'était du jamais vu depuis des décennies, quoi. Et donc, on a fait baisser le chômage comme on l'avait jamais fait baisser. Et du coup, ça a permis d'augmenter, disons, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, parce qu'après, les choses se dégénèrent. Mais, disons, au début de la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat pendant le quinquennat avait augmenté pour toutes les catégorie de la population, grâce à cette augmentation du taux d'emploi, du taux d'activité et des baisses d'impôts, le pouvoir d'achat a augmenté pour toutes les catégories de la population. Donc, je veux dire, c'est quand même une... Et la France est devenue un pays beaucoup plus attractif. Il y a eu beaucoup de créations d'entreprises comme jamais il y en avait eu avant. Ça, c'est à mettre à son crédit.
On a
bien
commencé
sûr.
À ouvrir...
Ça, c'est indéniable. On ne peut pas l'enlever. Non, absolument.
Bon, juste un mot. Il y a un décalage complet entre la perception d'Emmanuel Macron en France et à l'étranger. Il y a eu des sondages, les Américains font ça très bien, des sondages internationaux sur la popularité des leaders mondiaux. Il est en tête, hein. Il est plus populaire au niveau mondial que Joe Biden ou Olaf Scholz. Alors, vous direz, faute de grive, etc. Mais quand même, c'est quand même un atout formidable et l'attractivité, elle est là. Hein, il y a des points extrêmement positifs. Alors après, il y a des points noirs. Moi, j'en vois trois. La production industrielle qui reste, qui n'a pas du tout retrouvé, donc on est du côté de l'offre et de Philippe, qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant Covid. Il y a, moi, je pense, une productivité à marché du travail qui débloque complètement, offre et demande, montée en flèche de l'absentéisme. Pareil, l'absentéisme est beaucoup plus élevé qu'en 2019.
Est-ce la responsabilité problème. De l'exécutif?
Oui, mais il y a quand même un gros problème en France là-dessus, et avec le corollaire qui est la réforme d'urgence, on va y consacrer un numéro à la rentrée de l'éducation nationale, le job n'a pas été fait. Il y a eu des bouts qui ont été faits.
Totalement d'accord.
Et puis vous rajoutez les finances publiques, quand même.
Oui. Bon, si vous faites on sur le sujet de l'éducation, ça y est, Philippe Aguillon part.
Mais pareil sur production industrielle, mais on ne va pas trop le. Ou alors on fait une journée spéciale.
que retenir, Philippe Aguillon, de la déclaration finale des rencontres d'Aix-en-Provence autour de. Alors le thème, c'était l'état d'urgence économique. Et il y avait. 7 décisions à prendre dans 7 domaines, pouvoir d'achat, logement, mais pas que. Quel est l'état d'esprit que vous retenez de ce qui s'est passé pendant 3 jours à Aix-en-Provence cette année, compte tenu du climat que nous décrivons? Je me faisais la réflexion ce matin. Le monde, si on le regardait avec nos yeux de janvier et nos yeux de juillet,
Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu des gros chocs qu'on prévoyait pas, quoi. Donc, alors c'était intéressant à Aix parce que beaucoup de chefs d'entreprise qui disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Donc c'est intéressant.
Tous, en fait. À tous les niveaux de qualification.
Voilà. Donc ça, c'était quand même une chose qui revenait très, très fortement. Donc il y a vraiment tout le problème de la qualification et puis de donner envie. Mais ils n'arrivent pas aussi à embaucher parce qu'ils payent pas assez, quoi. Je crois qu'il va y avoir le sujet des salaires. Et là, une des choses que peut-être le gouvernement va essayer de tenter de faire, c'est de favoriser la négociation par branche. Parce qu'on sait que souvent, une entreprise ne va pas augmenter ses salaires, parce qu'elle dit, sinon, si moi j'augmente unilatéralement mes salaires, je deviens moins compétitif que mes concurrents directs dans le même secteur. Donc il va falloir inciter à des accords par branche qui permettront des augmentations de salaires. Bon, il faut qu'elles soient raisonnables avec la productivité. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de secteurs, par exemple, la restauration est un secteur où les marges ont beaucoup augmenté.
Elle a fait un effort salarial de la restauration, avec un accord de branche, justement.
Oui, mais il y a d'autres secteurs où des efforts peuvent être faits davantage, probablement. Mais comme la négociation ne se passe pas assez par branche, ces augmentations de salaires n'ont pas lieu. Donc je crois qu'en partie, le manque d'attractivité est dû au fait que les salaires sont trop bas. Et parce que la négociation par branche ne marche pas. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront faites dans ce sens-là. Donc voilà, je pense que ça, c'est ce que j'ai retenu. Bah sinon, ex un petit peu, bah l'idée de dire voilà, il faut, c'est une situation très difficile, mais c'est l'optimisme positif, c'est-à-dire c'est l'optimisme de dire voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc effectivement, donner la priorité au pouvoir d'achat des plus modestes, donc avoir quand même une politique budgétaire sérieuse, donner le pouvoir de priorité au pouvoir d'achat des plus modestes, faire des efforts de réduction de dépenses publiques, réforme de l'État, il faut la reprendre puisque le cap 22 n'a rien donné du tout, enfin pas grand chose. Un peu, mais pas assez. Et il faut reprendre le chantier du Cap 22, à mon avis, qui n'a pas été. On n'a pas vraiment eu une réforme de l'État comme on en a eu en Suède ou ailleurs, quand on a créé les agences.
Mais la map Hollande ou la RGPD.
Il n'y a pas eu. Voilà. Donc ça, il n'y a pas eu. Donc ça, c'est un chantier. Et puis, il y a le chantier des retraites. Et là, je crois que mon élément d'optimisme, c'est que je pense qu'il peut y avoir un accord, en tout cas, sur l'idée de la durée de cotisation. C'est-à-dire que je crois qu'on va vraiment abandonner l'âge légal. Je crois que ça va être abandonné. Et je suis optimiste que s'il s'agit d'accélérer la procédure Touraine et donc d'agir sur le levier durée de cotisation pour augmenter le taux d'activité en fait et pour réduire les dépenses récurrentes. Ouais. Je pense que là il y a possibilité d'accord. Voilà, je suis reparti de Aix avec le sentiment que à la fois du côté des syndicats et du côté du gouvernement, on pouvait converger vers quelque chose qui permette de débloquer le dossier des retraites. Mais peut-être que je suis trop optimiste.
Non, mais voilà. Il y a quelque chose sur ce sujet-là parce que je connais votre position sur la réforme des retraites. Il y a une analyse qui m'a fasciné la semaine dernière de Stéphane Carcillo, qui est également membre du CERF, qui connaît bien ces sujets et qui nous a expliqué par le menu que oui, effectivement, allongement de durée de cotisation est probablement le socle d'une négociation qui peut aboutir à un compromis. Mais, dit-il, c'est la borne d'âge qui fait qu'on garde plus longtemps les vieux dans l'entreprise. Et la borne d'âge, c'est comme une anticipation d'inflation. C'est un marqueur. Et si cette borne d'âge, elle passe de 62 à 64, vous avez l'ensemble du marché de l'emploi qui va se décaler vers cette borne. Alors que la durée de cotisation n'aura pas l'effet.
Ouais, mais ça ne marchera pas. La borne d'âge sera inacceptable.
Ben oui, je sais que c'est inacceptable.
Ça ne se fera pas.
Ben oui, je sais.
C'est un... Voilà. Bon. Donc je crois qu'il faut... Voilà. On veut toujours plus, mais... voilà, il y a ce qu'on... La politique, c'est la science du possible.
Hein. Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé dans la déclaration finale, c'est que la notion d'urgence est bien présente. Et qu'on ose quand même dire.
Et alors elle dit quand même la déclaration finale que comme on va faire ces efforts budgétaires, alors on a la crédibilité nécessaire pour faire les investissements dans l'éducation, dans la transition énergétique, dans la recherche et l'innovation. Et ça, cette ligne-là, on la garde. Et cette ligne-là, elle est importante non seulement pour augmenter notre potentiel de croissance à long terme, mais c'est également, comme on en discutait tout à l'heure, même quand vous parlez d'inflation, il faut cependant là, il faut cette politique de l'offre. Donc c'est vraiment de dire, je cible sur les ménages modestes, je fais une réforme de l'État et une réforme des retraites, et ça me donne la crédibilité pour faire une politique de l'offre conséquente, éducation, santé, innovation et transition énergétique. En et ça, cas, je crois que c'est une ligne qu'il faut garder, quoi.
En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que des sujets un peu tabous étaient malgré tout abordés dans cette déclaration finale d'Aix-en-Provence, notamment sur le logement. Vous aviez l'air dubitatif, Emmanuel.
Non, moi je partage le message d'optimisme de Philippe. Il y a simplement un point auquel je
crois
pas.
Il faut essayer de le rester parce que sinon,
oui, il y a un point sur lequel je n'y crois pas. En tout cas, il faut qu'on me donne la méthode, c'est la réforme de l'État. Enfin, quand j'étais étudiant, on parlait déjà du modèle suédois. J'adore le modèle suédois, sauf que la France n'est pas la Suède. Et même chose pour l'éducation, on m'a toujours pas donné. J'ai fait quand même 3 ans en cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai toujours pas compris comment on réformait l'éducation nationale. Ou plus exactement, je sais comment on fait, mais c'est inacceptable socialement. C'est en mettant de la concurrence en réalité entre les établissements. Plutôt qu'on mette de la concurrence entre les élèves. Parce qu'il y a de la concurrence en France entre les élèves, mais moins entre les établissements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le deuxième point, j'ai un peu de mal à y croire, la réforme de l'État, mais en effet, l'idée d'allonger la durée de cotisation, et puis le point très important, à court terme, il faut aller vers le chèque one shot, 12 mois, pour soutenir les personnes les plus fragiles, bien entendu. Mais la réforme de l'État, c'est comme un serpent de mer. Et on ne nous explique jamais comment on fait.
Oui, c'est vrai. Il y a une task force qui a été annoncée par Bruno Le Maire.
Quand on délègue à des niveaux inférieurs, que le centre se défasse de la prérogative. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas faire suffisamment.
Réforme de l'État, il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau de l'État. Il y a d'autres fonctions publiques qui sont en crise. On parle territorial, on parle aussi d'ailleurs. Mais sur l'État, il y a quand même des choses qui marchent. Hein. Je sais pas, la fonction, la levée de l'impôt, par exemple, ça n'a jamais aussi bien marché. Hein. C'est remarquable. La retenue à la source, c'est un truc dingue qui a été fait.
Hein. Une vraie réussite.
Et c'est une vraie réussite. Donc,
quand on dit État, on pense la machine globale.
Mais je pense qu'effectivement, après, il y a des poches d'inefficacité. On l'a bien vu, malheureusement, pour la période du Covid, sur le sanitaire, les hôpitaux. Il y a des trucs où là, il faut reprendre le terme urgence. Urgence éducation, urgence système de santé, et je pense qu'il faut avancer comme ça. Et poursuivre les choses qui ont été faites. Hein. Je vous rappelle que toutes les réformes là sont en train d'être petit à petit. Par exemple, la réforme du chômage, hein, ça devait être le 1er novembre. Là, on a appris, ça a fait une brève... on a appris que c'était reporté sine die, si vous voulez. Hein. C'était quand même... On y est arrivé, ça avait été imposé. Enfin, ça avait été un dur combat, mais utile. Et on parlait de la crise du marché du travail. Elle passait aussi par cette réforme qui est... donc, il y a... Moi, le...
À mon avis, c'est l'autre... Risque, avec les retraites, c'est l'autre grande réforme.
Voilà. Mais bon, les retraites, c'est compliqué. Là, le chômage, ça devient très compliqué. Et après, donc, il faut reprendre le travail. Et on a la chance... Alors, on a la malchance de ne pas avoir de majorité, à mon avis. Mais on a la chance, du coup, d'avoir un vrai débat qui devrait être démocratique sur ces différentes réformes. Et on a la chance d'avoir un président qui ne va pas se représenter. Donc ça, c'est aussi... Ça donne une certaine liberté...
L'autonomie est une chose...
La dépense d'État n'est pas plus élevée en... D'État, hein, n'est pas plus élevée en France que dans les autres pays. Ouais. Mais la dépense publique, oui.
Oui, Pierre... pour moi, on aura de véritables réformes de l'État que si d'abord on se pose la question, l'État doit faire quoi?
Ah, bien sûr.
Et revenir sur...
Évidemment. Le périmètre.
Juste pour nuancer un peu ce que disait Pierre-Henri, c'est pas parce qu'il y a eu des succès locaux, et tout le monde reconnaît que le prélèvement de l'impôt à la source, c'est génial, mais comparaison n'est pas raison. L'éducation nationale, on parle de centaines de milliers de personnes, c'est une grosse machine et je ne vois pas de consensus sur la manière de réformer. Alors on peut répéter à longueur de journée, il faut que l'éducation nationale se réforme, force est de constater que ça ne marche pas. Donc moi j'ai un peu de doute là-dessus, le modèle à la suédoise, etc., c'est génial.
Il y a des idées formidables d'Emmanuel Combe et Philippe Aguillon.
On est d'accord, sur les externats d'excellence.
Je vous conseille de lire. Emmanuel est trop modeste en fait.
Je vous ai retrouvé.
Sur les externats d'excellence.
Mais oui, Philippe Aguillon, j'ai retrouvé vos...
Il est trop modeste mon ami Emmanuel.
J'ai retrouvé vos propositions dans la déclaration finale, la Barda notamment et tout ça. Bon. Je prends toujours cet exemple parce que effectivement, dépenses publiques, comment faire efficacité.
Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est de dire voilà, il va dépenser, mais il faut une bonne gouvernance. Par exemple, les écoles, on sait pour les écoles que bon, la taille des classes c'est important, mais la qualité des profs c'est important et le suivi des élèves c'est important. Alors il y avait cette idée d'externat d'excellence parce qu'il y a eu des centres d'études, un Greece qui a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière et d'autres qui ont montré l'importance de ces ingrédients. Tout le défi, c'est de les introduire dans le système français. Alors, ça voudra dire probablement plus d'autonomie du chef d'établissement, c'est-à-dire concilier, un peu comme les Finlandais le font, un curriculum national et des standards nationaux en matière de qualité et de programme, et une certaine autonomie dont a besoin le chef d'établissement pour pouvoir réaliser le contrat pédagogique. Voilà. Mais je pense que on peut aller vers ces éléments-là. Je crois qu'il y a eu, aux États-Unis, il y avait les fameuses charter schools qui sont, elles, privées, mais il y a eu des écoles publiques qui ont intégré des éléments des charter schools et qui, du coup, ont beaucoup mieux marché. Je pense qu'il faut regarder ce qui marche bien. Évidemment, la France, c'est pas les États-Unis et pas d'autres pays, mais je pense qu'on peut avancer dans cette direction, notamment celle des externats d'excellence dont sur lesquels on a travaillé avec Emmanuel. Sur les hôpitaux, il faut donner davantage d'autonomie aux hôpitaux. Et c'est vrai qu'il y a trop d'administration sur le dos des médecins dans les hôpitaux, et puis les hôpitaux devraient avoir davantage d'autonomie également. Donc là, il y a un certain nombre de propositions. Je pense que sur ces sujets-là, et je suis d'accord, ça se discutera beaucoup à l'Assemblée, mais je pense qu'il y a des idées. Et pendant la campagne, il y a eu différents candidats qui ont émis des idées intéressantes. Même Pécresse, j'avais vu, elle avait dit des choses intelligentes sur la santé, sur l'éducation, et d'autres candidats. Et je pense que, voilà, il faut... Mais c'est toujours l'idée de dire, il faut que... on peut mettre de l'argent, mais avec de la bonne gouvernance, et avoir des critères de performance à l'arrivée, quoi.
Oui, pas que de la bonne gouvernance.
Regarde, par exemple, les Portugais. L'éducation, c'était catastrophique au Portugal. Ils ont remonté la pente formidablement. Ben, comment ils ont fait? C'est intéressant d'aller regarder.
Pas que de la gouvernance, de la communication. La communication, c'est au moins aussi important que ce que l'on fait. Enfin, on va en parler avec l'étude de Stancheva. Hein. Et typiquement, quand vous parlez de autonomie des établissements, on entend, une partie des Français va entendre « Ok, donc ça veut dire qu'on renonce à l'idée que nous avons des objectifs communs en matière d'éducation. » Il faut bien expliquer que le programme, le baccalauréat restera national, que c'est bien, mais que c'est la méthode, c'est le moyen. Mais ça veut dire qu'il y a un travail de com, mais qui est énorme. Et on va le voir avec l'étude de Stancheva. Quand vous dites, vous expliquez aux gens la mesure avant de leur demander ce qu'ils en pensent, mais vous changez le résultat.
Bien sûr. Avant d'évoquer cette étude, juste un exemple, parce que je le cite souvent, à propos justement de comment... redéfinir le périmètre de l'action publique, réduire sa dépense publique et gagner en efficacité. Alors, vous allez me dire, c'est un exemple qui n'est pas forcément duplicable, mais j'avais trouvé extraordinaire les 15 années du maire de Plan-de-Cuq, aux portes de Marseille. Il arrive à la tête de cette ville. Alors, vous savez, c'est des villes où le gars va se représenter systématiquement parce que personne ne veut faire le job. Il a, par rapport au reste du pays, il a un niveau de prélèvement obligatoire monumental dans sa ville, un niveau de dépense publique monumental. Et il se dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et donc, au fil du temps, hein, c'est pas du jour au lendemain, il va considérablement externaliser des quantités de services assurés par la municipalité et il va totalement inverser ses dépenses et totalement inverser ses prélèvements obligatoires en externalisant des
quantités. Oui, mais externalisation, on va comprendre, délégation au privé. Donc il faut bien expliquer qu'à nouveau, c'est un moyen, le privé, mais que la finalité est publique. Et ça, il y a un énorme travail de com. Et la com, c'est fondamental.
Est-ce que c'est ce qu'on a besoin d'avoir un service public pour s'occuper des cantines dans les écoles? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un service public pour s'occuper des parcs et jardins dans les villes? Enfin, je ne suis pas certain. Je prends des exemples anecdotiques. L'étude Stancheva, en fait, ses conseils d'analyse économique, ça porte sur l'appréciation des Français par rapport à la taxe carbone. Mmh. Et on est tous d'accord, mais par contre, on n'est pas tous d'accord pour payer. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette...
Il y a deux lectures. Il y a la lecture optimiste qu'en fait Stancheva elle-même. Donc c'est une enquête, je trouve ça assez...
Stéphanie Stancheva, hein, qui est une jeune économiste absolument fabuleuse, fascinante.
Prof à Harvard. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a interrogé les Français sur ce qu'ils pensent vraiment. Alors la lecture optimiste, qui est la sienne, moi je suis un petit peu moins optimiste quand on regarde dans le détail. La lecture optimiste, c'est de dire en réalité, les Français n'aiment pas la taxe carbone parce que d'abord on leur a mal expliqué. Et elle fait un petit test intéressant. Vous demandez à une personne si elle est pour ou contre la taxe carbone, majoritairement non, et vous lui dites maintenant, avant de te demander ta réponse, on va te faire regarder une petite vidéo. C'est pourquoi la transition climatique, c'est important. Et puis après, on repose la même question. Et on voit que ça change assez fortement le résultat. Et on revient sur notre problème de tout à l'heure. C'est pas une histoire de gouvernance, c'est aussi une histoire de com. C'est très important d'expliquer avant de faire. Donc le premier enseignement de l'étude, c'est on a besoin d'informer. Hein, continuer à expliquer en permanence. Donc trouver les bons leviers, les bons supports. Il y a un second point super intéressant, c'est que les Français vous disent la taxe carbone, pourquoi pas, si, à deux conditions. D'abord, redistribuer aux plus fragiles et surtout l'affecter à la transition environnementale. En clair, il faut dire ce qu'on va faire avec cet argent. On l'a jamais dit, ça.
Jamais.
C'est
le schéma Arthur Pigou.
Mais mettez-vous à la place d'un Français que je suis, il va se dire, finalement, c'est juste une taxe. En fait, c'est un impôt déguisé. Alors qu'on le rappelle, hein, le but de la taxe carbone, c'est pas d'avoir des rentrées fiscales. Hein. La meilleure taxe carbone, c'est celle qui rapporte zéro, parce que justement, on a changé de comportement. Hein. C'est une taxe incitative. Et donc, c'est intéressant ce discours qui est de dire non à la taxe carbone, vous disent les Français, sauf si elle est affectée. Vous voyez, le design des politiques publiques est au moins aussi important que la politique publique elle-même. Dire je veux faire la taxe carbone, ça passera jamais. Si vous mettez ces précautions, qui ne sont pas seulement des précautions de com, hein, aussi d'affectation, vous avez peut-être une chance de la faire exister. Alors là où je suis un petit peu moins optimiste que les auteurs, c'est quand on regarde en détail, les Français vous disent quand même, la meilleure politique, c'est de faire des investissements verts, pour qu'on soit green, et du coup on n'aura plus besoin de la taxe carbone. En clair, on veut la transition climatique, mais sans la facture et sans la douleur.
Le problème, c'est que
il y aura toujours la facture.
Tout le monde est d'accord pour dire que ça va coûter cher, très cher et très longtemps.
Alors que la lutte efficace contre le changement climatique, c'est d'un côté la taxe carbone pour donner les bonnes incitations, parce que ça donne aux entreprises incitations de produire plus vert et d'innover plus vert. Ça, on le sait. Mais en même temps, ils font compléter le prix du carbone, le levier prix, par un levier investissement et politique industrielle. Il faut à nouveau les deux leviers. Parce qu'il y a à la fois une inefficacité environnementale directement, mais aussi des externalités technologiques. C'est-à-dire que ceux qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé tendent à innover encore demain dans des technologies polluantes. Donc quand on a deux inefficacités, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il faut au moins deux instruments. Le prix du carbone et la subvention à l'innovation verte ou la politique industrielle verte.
Moi, juste un mot. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières semaines. C'était la tribune de nos trois, enfin la patronne et des deux grands patrons de l'énergie, qui ont préempté le discours sur la sobriété. Oui. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable que ça soit pas les pouvoirs publics qui préemptent de ça. C'est quand même leur job. Alors ça fait vintage, ça fait un peu trop quand vous discutez justement avec des communicants. Ils vous disent mais ça fait trop années 70, ça rappelle 73, etc. je vous rappelle, les campagnes chasse au gaspille, c'était un petit bonhomme qui rigolait. La sobriété, elle était quelque part vertueuse et heureuse. Elle est devenue punitive, notamment à cause de l'usage de ce terme taxe carbone. Une taxe, ça peut jamais être sympa.
Compensation et carbone aux frontières.
Voilà. Mais si vous voulez, là, et je pense que là, il y a, on parlait des efforts de pédagogie à faire, et je pense qu'il y a un consensus autour de ça, qu'on peut pas vivre. Les gens, en particulier les jeunes générations, mais pas seulement, ont compris qu'on ne pouvait pas vivre. Mais c'est devenu extrêmement conflictuel, bizarrement, je trouve. Donc on est dans des positions très dures sur... on va boycotter les avions, etc. Mais on prend quand même l'avion...
Mais
il faut rétablir le dialogue. Et je pense... Alors je ne sais pas, c'est le boulot. Moi, pour moi, c'est un travail européen. Les Allemands sont quand même plus avancés là-dessus. Ils vont l'être... pas à la fin des choses, on ne sait pas quand ils vont passer l'hiver, mais il faut préparer les gens, faire une campagne. Et moi, encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre. Alors bon, là, on passe un peu au cynisme, c'est que je pense que ces trois grosses majors françaises de l'énergie ont compris qu'elles avaient vraiment un danger de se prendre une taxe super profit, donc il fallait qu'elles changent leur image très vite.
Mais c'est au gouvernement de
faire ça, qu'on investisse de l'argent là-dedans.
Je voulais parler de la dimension éducation qui est très importante.
Et on dit un mot de l'Ukraine,
sur ce que disaient mes deux amis. C'est-à-dire que bon, j'ai fait une étude avec Roland Benabou, Alexandra Roulet et d'autres co-auteurs, où on a montré qu'en fait, dans les pays où les consommateurs ont conscience que l'environnement c'est important, donc c'est l'aspect éducation dont parlait Emmanuel, et donc, eh bien la concurrence pousse à l'innovation verte. Parce que si je suis dans un pays où les consommateurs veulent du vert, si moi je suis tout seul, je peux dire, bah, de toute façon ils sont obligés d'acheter chez moi, même si je ne fais pas du vert, c'est pas grave. Mais si j'ai Emmanuel qui arrive et lui, il est vertueux, il produit du vert, bah, je me dis, même si je ne le suis pas vertueux, que je ne fais pas du vert, je perds mes clients et ils vont chez Emmanuel. Donc la combinaison de éduquer et informer le public d'un côté et la concurrence de l'autre, cette combinaison-là, eh bien, c'est l'équivalent d'une énorme augmentation du prix du carbone. C'est un levier fantastique qui oriente les consommateurs et donc les producteurs vers la production verte et l'innovation verte. C'est juste très intéressant. C'est un levier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juste reposer sur le prix du carbone. Le prix du carbone très intéressant, mais le mélange éducation-concurrence est un formidable levier d'innovation verte.
Et la concurrence tout court, hein. La concurrence, on avait écrit là-dessus, la concurrence en réalité, contrairement à l'intuition, hein, l'intuition c'est plutôt de se dire la concurrence augmente les quantités puisqu'elle fait baisser les prix et donc elle augmente la pollution. En réalité, vous avez un effet inverse. La concurrence est l'alliée de la transition. Transition.
Et si elle est alliée dans un pays où les gens sont conscients qu'il faut faire l'environnement,
des préférences.
Sinon, elle peut aller dans l'autre sens.
Ouais. Vous vouliez dire un mot de l'Ukraine, Philippe Aguillon?
Non, mais je vais dire un truc pour vous choquer,
peu.
Comme tout le monde, je suis horrifié par cette guerre, par ce que les Russes ont fait, je ne suis pas là du tout pour défendre le régime russe que je honnis. Mais je pense qu'il va devoir y avoir un moment où il faudra qu'on discute avec les Russes. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, alors il faut que c'est ça les Américains, quoi. Il faudra qu'à un moment donné, il y ait une discussion, une espèce de Yalta. Un nouveau Yalta où on se met autour d'une table. Alors il y a un plan italien qui dit voilà, par exemple, le Donbass et la Crimée pourraient rester sous souveraineté ukrainienne mais devenir autonomes même en matière de défense, arriver à un accord qui fait que, eh bien, il y a un cessez-le-feu et qu'on relâche la pression. Je pense que voilà, et j'espère beaucoup que ça va se passer, voilà. Et donc peut-être qu'il y a déjà des pourparlers secrets, mais je pense qu'à un moment donné l'idée de dire on va complètement gagner sur les Russes et on va récupérer la Crimée et le Donbass, ça me paraît totalement irréaliste à court terme. Et peut-être qu'on va être obligé de faire comme Yalta avait été, c'est-à-dire il y avait ça a duré ce que ça a duré. Après, il y a eu la chute du mur de Berlin. Mais j'espère, parce que je pense aussi que ça aura un impact énorme sur l'économie mondiale. Mais j'espère beaucoup qu'il y aura à un moment donné une discussion. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'armer les Ukrainiens, au contraire, il faut les armer, mais il faut les armer pour négocier, pas pour ne pas négocier. Et je pense qu'il faut aller vers quelque chose comme ça.
Parce que
et peut-être après repenser à la reconstruction de l'Ukraine. J'espère vraiment que quelque chose comme ça va se passer dans les mois qui viennent.
Pour l'instant, les sanctions sont un échec, disait Philippe Martin hier dans les colloques.
Oui, mais je lui avais toujours dit à Philippe, on avait ces discussions là, il y a trois mois.
Oui, mais je me souviens.
Je suis pour les sanctions, je ne suis pas du tout contre les sanctions.
Les sanctions, elles ont augmenté de 30% les recettes des Russes.
Logique.
Voilà.
C'est ça la situation.
Mais maintenant, je crois le temps est venu de négocier, de discuter. Et il y a un plan italien. Eh ben, il est peut-être pas mal, ce plan.
J'ai pas vu le plan italien.
Ah, il est pas bête.
Bon. On a 2 minutes, 1 minute 58. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer? Si, j'avais quand même je voulais vous poser une question. On parlait des salaires, là. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous, parce que je sais que le sujet a été en discussion parmi les membres du cercle des économistes. Et, la question du coup de pouce au SMIC. Est-ce qu'il y a un moment, il faut aller vers... Le SMIC va augmenter de 1302 euros net par mois à 1328 euros net par mois pour un temps plein à 35 heures, car c'est un salaire horaire le 1er août. C'est la hausse mécanique liée à l'inflation. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un geste politique sur le SMIC ou pas, selon vous? Quelqu'un a un avis? Personne? Non, vous n'avez pas
d'opinion.
Vous n'avez pas d'opinion.
Bon. Un petit mot sur la défiscalisation des heures sup?
Ah ben alors, un petit mot sur la défiscalisation des heures sup. Là, c'est un sujet sur lequel, visiblement, le gouvernement va lâcher du lest.
Bah, c'est une bonne mesure de pouvoir d'achat, mais attention, on est bien d'accord, ça n'a strictement aucun effet sur l'offre de travail. Il y avait une étude, vous savez, de l'Institut pour les politiques publiques qui avait évalué les effets de TEPA. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les salariés ont déclaré plus d'heures, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont travaillé plus. Donc si l'objectif...
Les heures normales étaient déclarées.
Exactement. Donc si l'objectif c'est d'augmenter la quantité de travail effet zéro, si l'objectif en effet de donner du pouvoir d'achat, mais n'en attendons pas cet objectif
c'était celui en tout cas. C'est peut-être plus malin de monétiser les RTT. Il y a beaucoup de secteurs où effectivement il y a des crédits en travail gigantesques. Voilà, ça s'est fait mais dans la fonction publique, notamment au sein de la police. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire et ça permettrait de créer effectivement de la richesse.
On avait vu, c'est vrai que sur les heures sup défiscalisées version TEPA, donc la première loi dès que Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir, en fait c'était du gagner plus en travaillant autant.
Autant, ben, voilà. Exactement.
Encore un
mais c'est bon pour le pouvoir d'achat.
Mais c'est bon pour le pouvoir d'achat.
Mais ça n'a pas d'effet d'offre.
On a fini.
On a terminé.
Oui, on a terminé là. Donc les Fortunes de France, 27e édition, c'est la une du numéro de challenge du mois d'août. Merci Philippe Aguillon, Emmanuel Combes, Pierre-Henri de Menton. Rendez-vous demain 9h.